des livres plein les oreilles. Je voudrais commencer cette émission par une confession. Je n'avais pas pu voir la série Olivier directement inspirée de ce livre « Dans mes yeux à moi » écrit par Joselito Michaud, qui va certainement nous le préciser, mais directement inspiré de sa vie à lui. Inutile de vous dire que mes yeux à moi se sont souvent remplis de larmes en lisant ce texte qui me confirme ce que je dis souvent. Derrière chaque ride, il y a une histoire. « Dans mes yeux à moi » va exister maintenant en audio, et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, 3 mois tout au plus, la suite de « Dans mes yeux à moi » également. Joselito Michaud qui a tout de suite répondu « oui, présent » à mon invitation. Il est d'ailleurs déjà au bout du fil, je vais lui parler dans quelques instants. Et il n'est pas seul, il sera accompagné par celle qui partage sa vie et qui a fait une lecture formidable à haute voix de ses 2 livres, Véronique Béliveau. Ça, ce sera pour la première partie. En seconde partie, on va découvrir les éditions Fonfon, éditions Jeunesse avec Véronique Fontaine. Et puis, on va également jeter une oreille sur une sonate composée par Monsieur Proust. Pourquoi je vous présente ça? Bien parce que À la recherche du temps perdu vient d'obtenir un prix en France, un prix prestigieux en ce qui concerne le livre audio. C'est lu par Daniel Mesguich et il est question, entre autres, de la sonate de Vinteuil, une sonate virtuelle en quelque sorte que Proust avait composée pour À la recherche du temps perdu. Alors, parlons musique. J'avais envie, avant de commencer cette entrevue avec Joselito Michaud et Véronique Béliveau, j'avais envie de leur faire peut-être découvrir une chanson. Moi, je l'ai eue dans la tête pendant toute la durée de la lecture de ces 2 livres dont on va parler aujourd'hui. Voici William Scheller.
La nuit, j'étais en proie à la peur. Je n'y pouvais rien. Ce matin-là, c'était la troisième fois, en moins de 5 ans, que je devais déménager mon petit monde. Ballotté d'une famille d'accueil à une autre, j'essayais tout le temps de m'enraciner quelque part et de trouver mes points de repère, sans manifester mon mécontentement, de crainte que l'on ne m'aime plus. Du haut de mes 7 ans et des poussières, j'étais devenu un chevalier errant qui se battait pour survivre au chamboulement. Je me tenais le corps bien droit, afin de simuler une force que je n'avais pas encore. Déjà, j'avais un certain orgueil qui me défendait de me montrer vulnérable. Je voulais paraître fort. En solitaire, je devais faire mon chemin et vivre en tâchant de ne pas trop me demander ce qui allait m'arriver. De toute façon, je n'étais pas en âge de répondre à ces questionnements. J'allais partir une fois de plus à la conquête de nouveau chez moi, la demeure des Rivard. J'étais plein d'inquiétudes, les mêmes qui m'habitaient depuis trop longtemps et qui me hantaient nuit et jour. Ma tête était remplie de pensées confuses. Mon cœur était tout barbouillé. J'avais l'estomac noué. Pourtant, j'avais l'habitude de ces départs prématurés.
Olivier, Nicolas, même combat, quoi. José Lito.
Ah, c'est incroyable. D'abord, je suis très bouleversé du choix d'avoir de votre cadeau aujourd'hui. Merci beaucoup, Claudette, parce qu'il m'est revenu un souvenir intact en mémoire. Cette chanson-là, je l'ai entendue pour la toute première fois, c'est chez Serge Lama. J'étais chez Serge Lama dans son living et il m'a fait entendre ça parce qu'il m'a dit « Écoute les mots et la musique symphonique et la musique » parce qu'il y a, ouais, y a un grand air derrière,
ouais,
tout ça.
Il y a un quatuor à cordes aussi là-dessus. Ouais.
Absolument,
ouais,
qui est absolument magnifique. Et c'est la fois où j'ai découvert cette chanson-là magnifique et j'étais avec Serge Lama et ça m'ébranle parce que je trouve que c'est vrai que j'avais oublié cette chanson-là qui est si belle. Et me rappeler ce souvenir-là grâce à vous, et me rappeler ce moment qui était très, très suspendu dans le temps avec Serge, parce qu'on parlait justement de musique, on parlait de chansons, on parlait d'écriture, et je me souviens encore de ce moment-là qui est tout à fait intact dans ma mémoire.
Et c'est fou ce que vous me dites, parce que confidence pour confidence, Serge est un ami, et quand je faisais de la musique, j'ai débuté chez Lama, il y a maintenant 40 ans. C'est incroyable.
Parce que ça trahit votre âge, je vous donnais à peine 30 ans.
Ah! Oui, bon, voilà un homme qui sait parler aux femmes, que voulez-vous? Ouh, je suis rouge, mais une chance, je ne fais pas de la TV, je fais de la radio. Alors, puis bonjour Véronique.
Bonjour.
Vous le savez qu'il sait parler aux femmes, hein?
Ah oui, tout à fait.
Mais peut-être que je les aime profondément aussi.
Bon.
Oui, c'est vrai.
Alors, dites-moi, comment, parce que bon, évidemment, la suite de Dans mes yeux à moi, qui s'appelle 3 mois tout au plus, on présente ça comme un roman. Je ne sais pas comment est-ce qu'on avait présenté le premier, mais comment on peut présenter, parce que roman, certes, mais enfin, c'est quand même très, très teinté de votre vie, José Lito, évidemment.
Ah, bien sûr, mais moi, je pense que quand on met le titre roman, il n'est pas écrit d'ailleurs sur le livre, hein, c'est quand on fait les communications qu'on le dit.
C'est ça.
Le roman, ça nous protège énormément. Ça met une distanciation, oui. Vous comprenez? Ah, oui. Vous, je vais dire ça. Mais en même temps, pour moi, c'est Olivier devenu mon alter ego. Je pense que Olivier dit les choses que moi, je n'oserais pas dire. Donc, on peut, des fois, sous le couvert d'un nom, d'un prénom, raconter une histoire qui est parfois si collée sur la sienne.
Oui, absolument. Véronique Béliveau, j'ai découvert vraiment ce matin, sur le tard, on a réussi à agripper un petit extrait parce que, pour vous rassurer, l'émission ne passe pas avant 2 semaines, donc il n'y aura vraiment pas de problème, on ne déflore rien. Et j'ai découvert cette voix grave, cette belle voix de lectrice. Comment s'est fait le choix? D'abord, vous êtes une femme. Comment s'est fait ce choix, José Lito, Véronique? C'est vous, José Lito, qui avez demandé à Véronique?
Ah oui. Ah oui. C'est-à-dire que j'ai un privilège depuis longtemps. Ça fait 26 ans que je partage la vie de Véronique. Et Véronique, pour moi, quand je l'ai connue alors que j'étais adolescent, je trouvais que c'était l'une des plus belles voix que j'avais entendues. Pas juste chanter, parce qu'elle était chanteuse pendant près de 30 ans, mais une grande voix de lectrice. Je l'avais entendue, ça. Oui. Et de mes plaisirs dans la vie, c'était de dire à Véronique, lis-moi des passages. Et un jour, et quand je me suis mis à écrire, particulièrement celui-là, j'ai dit à Véronique, j'ai besoin d'une musicalité, d'entendre une musicalité dans les mots. Peux-tu me le lire? Et ça m'a aidé beaucoup à écrire différemment ce livre-là. Et puis, à un moment donné, quand on m'a dit, je voudrais penser à une voix, ben, j'ai dit, c'est celle qui me lit constamment dans les oreilles. c'est celle de Véronique et tout le monde était absolument d'accord.
Absolument.
Il faut dire aussi que pour les émissions du train, par exemple, c'est moi qui faisais les voix.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
C'est moi qui fais les voix. Donc, on était déjà habitués à travailler ensemble un petit peu à ce niveau-là aussi.
Alors, ce jeune garçon, Olivier, il est certain que pour les gens qui ont vu la série, moi, malheureusement, à ce moment-là, je n'étais pas ici pour toutes sortes de raisons. Et je pense que c'est très bien, d'ailleurs, parce que j'ai lu ce livre avec des yeux tout neufs. Et donc, ce petit garçon fait partie de ces mômes qui sont ballottés à droite et à gauche, qui vivent des moments de découverte comme tous les enfants de la Terre, des moments heureux, des moments joyeux, mais des moments d'autant plus désagréables que ce sont souvent des mômes qui sont à la recherche de repères humains comme ce gamin, entre autres, lui qui vit beaucoup dans un univers de femmes et qui va à tout prix vouloir aller retrouver l'image du père. Ça donne lieu au second livre. Je me disais, il y a tellement encore d'Olivier et de Nicolas qui se débattent. Et je me disais, ça doit vous toucher beaucoup, José Lito, de savoir qu'il y a autant de gamins comme ça, qui sont encore ballottés, qui sont encore frappés, qui sont encore violentés, comme Olivier l'a été, quoi.
Ah ben bien sûr. D'ailleurs, c'est drôle parce que, drôle dans le sens étrange, mais on m'a posé beaucoup la question durant le temps de la pandémie, comment je l'avais vécu, moi. Et puis, égoïstement, j'ai dit, moi, je l'ai bien vécu parce que ça m'a permis de mettre un frein sur l'accélérateur. Mais j'ai dit, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tous ces Olivier qui, dans la vraie vie, parce que l'agresseur est soudainement dans la maison 24 heures sur 24, oui. Et par surcroît, cet agresseur vient de perdre son emploi. Imaginez-vous. Ah. Donc, je me disais, j'avais toujours une pensée pour ces jeunes enfants-là. Mais moi, je pense aussi que j'ai toujours essayé, et c'est la raison pour laquelle ça a mis beaucoup de temps avant de raconter cette histoire-là, la première histoire, parce que pour moi, je ne vois... C'est les bouddhistes qui disent, vous devez embrasser les choses. Moi, j'ai fait comme Flaubert, il dit, on ne guérit pas son chéri, sa souffrance. Et puis, c'est d'ailleurs une citation qui ouvre le livre. Mais moi, j'ai l'impression que je ne serais pas le même être humain si je n'avais pas connu cette enfance ballottée d'une famille à une autre. Mais c'est vrai que, je pensais tout à l'heure au texte à la recherche du temps perdu, c'est vrai que quelque part, j'ai l'impression de toujours être à la recherche de quelque chose. Ça, c'est une des séquelles profondes de cette enfance ballottée. Mais en même temps, ça fait, je pense, l'intervieweur que je suis. Ça donne la sensibilité que j'ai. Ça donne une ouverture sur les autres assez grande. Oui. Ça donne un cœur qui est capable d'aimer plus qu'une personne à la fois. Ça a quand même certains avantages.
C'est ça, à un moment donné, d'ailleurs, vous le dites, c'est cette vie-là de ballottage à droite et à gauche et de souffrance, ça a développé en vous une soif immense de savoir ce qui se passait ailleurs.
Ben,
mais
bien sûr,
c'est exactement ce que vous faites en ce moment, quoi.
Ben, bien sûr, avec toutes mes émissions, avec tout ce que je fais, je suis rendu au-delà de 5000 entrevues où j'ai posé des questions aux autres constamment pour apprendre sur moi. Parce qu'on apprend en écoutant les autres. On apprend beaucoup en se taisant aussi. Et moi, ça me fait du bien de faire taire cette voix à l'intérieur de moi qui souffrait énormément, qui souffre encore souvent l'occasion, quand même souvent. Et puis, des fois, je laisse taire et j'entends les autres, j'écoute les autres. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose de réconfortant à entendre que chacun transporte son lot.
Je voudrais lire quelques mots. Nous sommes en page 26 de « Dans mes yeux à moi ». C'est le chapitre 5, parce que c'est plein de petits chapitres comme ça qui sont délicieux, vraiment délicieux. La boîte à caresses, et où vous écrivez « Je me suis mis à emprisonner des instants de vie dans ma mémoire. Ces souvenirs, je les rangeais dans ma boîte à caresses, un endroit symbolique dans mon cœur, où je pouvais faire mes provisions de bonnes choses pour l'âme. Je les conservais précieusement. Quand survenaient des bouleversements, je n'avais qu'à en cueillir un pour m'apaiser un peu. J'étais loin de me douter que j'allais devoir augmenter la fréquence de mes cueillettes pour mieux traverser les malheurs qui surgiraient sur mon chemin. Ma question, vous avez encore cette boîte à caresses en vous?
Ah ben elle est là, toujours bien ouverte. Et c'est drôle parce que j'ai pensé exactement ça quand j'ai entendu tout à l'heure cette chanson et j'ai entendu
de William Scheller.
Et j'ai entendu votre magnifique voix faire en guise d'introduction, de préambule à cette entrevue en me disant, tu vois ça, tu vas pas mettre ça dans ta boîte à caresses. Vous savez, des fois, Claudiole, c'est quelques petits moments ici et là, parce que je ne suis plus à la recherche du bonheur. Il y a bien longtemps que j'ai cessé cette course effrénée vers l'impossible. Moi, je suis à la recherche du bien. Je recherche un état de bien-être. Donc, un état de bien-être, parfois, il vient tout bonnement, il vient beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, et tu cesses de l'attendre. Alors que quand tu attends le bonheur, Claudette, il n'est pas possible d'attendre quelques jours, voire quelques semaines.
Véronique Béliveau, est-ce que José Lito, est-ce qu'il déteste encore et vraiment les gâteaux d'anniversaire? Est-ce que c'est du roman, ça?
il n'aime pas beaucoup les anniversaires.
Ah.
Il va accepter qu'on le fête. Mais je dirais pas que c'est quelqu'un qui aime tant que ça les anniversaires, comme il n'aime pas beaucoup Noël non plus.
Ah.
C'est un peu grâce à moi maintenant qu'il accepte le sapin, parce que moi je suis une folle de Noël. Alors j'ai inculqué un petit peu de ma folie, mais il est presque obligé d'écouter de la musique de Noël maintenant, il n'y a pas le choix.
C'est vrai, puis les photos aussi. Je me suis rendu compte l'autre jour, on m'a demandé des photos pour une émission de télévision que je vais faire sous peu, et Véronique, en cherchant, je me suis rendu compte que j'avais pas de photos.
Non.
Ah non,
je ne prends pas de photos. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui immortalisent à des moments précis dans le temps. Moi, je n'ai rien. Et il faut dire qu'on ne me prenait pas en photo quand j'étais tout petit. Les seules fois où on me prenait en photo, je réalisais ça hier, Véronique et Claudie, c'est que à chaque fois qu'on me prenait en photo, c'était pour que je fasse le beau pour être pris dans une autre
famille. Pour être adopté.
Donc, pour être adopté. Donc, être choisi, hein, parce qu'il y a ça aussi. On mettait une vingtaine de photos devant les parents adoptants. Et puis après ça, on disait, choisis celui qui te paraît le plus cute, le plus normal, le plus intéressant. Mais finalement, plus on vieillissait, moins on était adoptable. Hein, parce qu'il y avait ça le problème aussi.
Donc, vous en parlez d'ailleurs très clairement. Hein. Et d'ailleurs, à un moment donné, vous vous dites entre les plus vieux, là, bon, écoute, ça doit vraiment être parce qu'on est trop moche ou je ne sais pas quoi.
Bien sûr. Moi, je le savais, l'enjeu. Parce que quand on est pour la science photo, je me souviens encore de ce moment-là. Et je n'avais jamais fait de lien. C'est grâce un peu à vous aujourd'hui que j'en fais un. Pourquoi je n'aime pas les photos à ce point. Je me souviens, quelqu'un disait, mais n'oublie pas aujourd'hui, hein, c'est avec cette photo-là que ça va se jouer. Et je me souviens à 3 ans, 4 ans, 5 ans, je me disais, mais mon Dieu Seigneur, j'ai une seule chance que ça fonctionne. Et je me disais, que faire? Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'accorde peut-être trop de valeur à une simple photo normale, et c'est la raison pour laquelle j'en ai pas de moi.
José Lito, Michaud et Véronique Béliveau, je voudrais qu'on entende un autre court extrait, ne serait-ce que pour se délecter de cette voix-là, puis après, je vais me tourner vers vous, Véronique.
Quitter enfin les surprenants, après 2 années et demie, à vivre à la dure, me redonnait l'espoir d'une vie meilleure. J'étais vraiment soulagée à l'idée de fuir définitivement ce lieu maudit où la violence faisait partie du quotidien. Comme ma foi avait été quelque peu ébranlée par ce que j'avais vu, entendu et subi durant mon séjour chez eux, je n'osais pas encore croire à la délivrance qui s'annonçait. J'avais longtemps pensé que je ne parviendrais pas à me sortir sain et sauf de cette atmosphère invivable. Les surprenants s'étaient retirés volontairement quelques années auparavant, à l'abri des regards indiscrets de voisins trop bavards. Perdu dans cette campagne lointaine, j'éprouvais un sentiment d'isolement total, ce qui augmentait l'intensité dramatique des scènes qui se déroulaient sous mes yeux. Sous mes allures de conquérant se cachait une peur profondément ancrée qu'il m'était de plus en plus difficile de dissimuler. Elle est apparue tôt dans ma vie. C'est chez les surprenants qu'elle a fait son nid en moi. J'étais en symbiose avec elle. La peur a tissé la toile de ma vie pour m'asservir. J'ai dû composer avec cet état de fait et peut-être devrais-je vivre ainsi à jamais.
Véronique Béliveau, moi quand je reçois ces mots-là, j'ai le frisson, ça m'épouvante, ça me fait mal. Vous en plus, en tant qu'épouse, que compagne, que femme aimante et aimée de José Lito Michaud, comment vous avez fait pour lire ça? J'imagine qu'il y a des moments qui ont dû être un petit peu difficiles. Et est-ce que vous les avez partagés avec José Lito?
Oui, je lui ai dit. En fait, moi, c'est des livres que je connaissais beaucoup. Hein. Même le deuxième, je l'avais beaucoup lu. Et puis, mais même en le connaissant beaucoup, il y avait des moments où j'avais envie de pleurer, mais évidemment, moi, j'étais toute seule dans mon petit coin, donc personne ne me voyait. Mais je dois avouer qu'il y a plusieurs moments où les larmes me sont montées aux yeux, puis que je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je vais être capable de lire ça? Parce qu'effectivement, mais même dans le deuxième livre aussi, il y a vraiment des moments touchants.
Mmh. Oh, oui.
Je me souviens dans le premier livre particulièrement, La lettre de la mère.
Ah, j'allais y venir! C'est fou! j'allais... Écoutez, je l'ai sous les yeux, c'est la page 198. Oui. C'est incroyable, ouais, c'est fou!
Oui, La lettre de la mère, là, j'ai eu de la difficulté à me rendre jusqu'au bout.
Ah.
Sincèrement, oui.
Alors parlons-en de cette lettre-là. Vous parlez bien de celle où il découvre réellement ce qui s'est passé. Bon, ça on peut le dire. Je parlerai pas trop, si vous me le permettez. Ce serait dommage de déflorer complètement tout ce qui se passe après dans le deuxième livre.
Bien sûr.
La rencontre avec une autre famille, etc. Je trouverais ça dommage. Alors que l'autre, bon, bah, comme il y a eu Olivier, on sait ça, on sait que votre maman, José Lito, a défroqué. On sait qu'elle a vécu une histoire d'amour. Mais voilà, on ne savait pas, vous non plus, et nous évidemment pas, lecteurs, que vous étiez le fruit de cet amour-là. Et ça y est, je parle de vous parce que je sais que ça vous est réellement arrivé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Là, je dois vous dire sincèrement, Yomanek aussi se laisse prendre au jeu.
Oui.
Il arrive parfois, quand elle me parle, elle me dit, tu sais, quand c'est arrivé comme ça, puis je dis, Véro, ça, non, ça, c'est pas très romancé, on se marie. Mais juste vous dire, Claudette, que je découvre, et c'est important que vous le sachiez, je découvre la voix de Véronique, je ne l'avais pas entendue encore, et je viens de l'entendre, et Véronique, je te le dis vraiment profondément, je suis touché, tu as fait un travail remarquable, je n'avais rien entendu. J'ai entendu deux extraits et j'ai goût de pleurer. Je me dis, c'est comme ça que je voulais que mon livre soit lu. Donc, je découvre ça devant vous, Claudette.
Sortez les coupes de champagne.
Ben oui, sortez les coupes immédiatement. Oui, j'adore moins qu'avoir le champagne.
Mais moi aussi, je découvre. Moi aussi, je découvre parce que moi non plus, je ne l'avais pas entendu. Moi, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas entendu.
Vraiment.
Merci.
Mais non, mais je vous en prie. Alors donc, on parlait de cette lettre où elle dit entre autres, hein, j'ai 17 ans, je suis encore une petite fille dans le corps d'une grande, je n'ai pas fini de grandir, j'ai encore besoin que l'on prenne soin de moi, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie sans toi. Je ne sais pas si je vais me pardonner un jour de t'avoir laissé partir. C'est effectivement... Et il y a aussi une autre... Excusez-moi, c'est parce qu'après, là, je saute un petit peu du coq à l'âne, mais c'est parce que c'est tellement... Oui, la suite est logique, et en même temps, c'est complètement différent dans l'autre bouquin, puisque Olivier est devenu adulte. Olivier a décidé de savoir, de comprendre, et entre autres, il se rend à New York après avoir reçu une nouvelle épouvantable, et ça non plus, je n'en parlerai pas, parce que je trouverais ça un petit peu dommage. Mais en tout cas, mettons qu'il y a une urgence à comprendre. On va dire ça comme
ça. Bien sûr. Mais c'est volontaire, Claudine, que j'ai voulu prendre Olivier à l'âge de 50 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je voulais pas faire une suite pour faire une suite. J'aime pas les choses qui se répètent. Donc, ça, c'est une affaire qui est bien importante. Je pense qu'on comprend bien, quand on voit mon parcours, que j'ai pas envie de refaire la même chose deux fois. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de faire un saut dans le temps et qu'on le retrouve à 50 ans, ironiquement, en train de célébrer son anniversaire. Parce que quand il termine le livre... le premier livre, il a 18 ans, puis il s'en va vers la grande ville en espérant la conquérir.
Oui.
On comprend qu'à 50 ans, il a réussi à la conquérir, il est devenu un animateur connu, 20 ans animateur de talk show, comme vous dites, il est confronté à une nouvelle qui va chambouler sa vie. Mais comme il y a une nouvelle qui chamboule sa vie, il se dit, et si j'allais à ma propre quête à moi, et si j'allais découvrir enfin mon père biologique?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça, et c'est la quête qu'on suit avec à un moment donné un retour aux sources, et là encore une scène terrible avec votre maman quand elle ou sa maman qui est devenue Alzheimer.
Bien
mais
sûr.
Mais les mots qu'elle, parce que elle le reconnaît pas, mais elle lui dit, elle lui parle de son parfum, je crois, elle lui dit. Je sais plus. Puis elle lui dit, en tout cas, je ne vous connais pas.
Je ne sais pas qui vous êtes,
mais je vous aime.
Je sais que je vous aime.
Oh.
Oui.
Donc, c'est la première fois que cette femme-là lui dira qu'elle l'aime, alors qu'elle lui a jamais dit de son vivant, puisqu'elle est maintenant atteinte d'Alzheimer. Et lui, c'est la première fois, comme il l'entend, qu'il va s'octroyer le droit de pouvoir aimer pour de vrai et s'abandonner dans l'amour.
Ah, c'est... Wow, non, non, écoutez, moi, ce moment-là, c'est vraiment sortez les Kleenex, hein, honnêtement. mais c'est jamais larmoyant pour être larmoyant. Je veux dire, c'est la vie, c'est comme ça. Puis en même temps, c'est plein d'espoir parce que le personnage a la foi et ça lui fait du bien d'avoir la foi. Il a
bien
ça
sûr.
Dans sa vie. Il y a des personnages merveilleux avec ses femmes qui finissent par l'élever. Donc, sa maman et les deux sœurs, les tantes.
Oui.
Il y a tout ça. Donc, c'est, en même temps, il y a pas, il y a de la douleur et il y a une belle plume. Hein. J'ai apprécié votre plume et j'aimerais ça qu'un jour vous nous pondiez un vrai de vrai roman, là. Mais un vrai, là. Rien à voir avec vous. Vous l'avez déjà fait, puis je ne l'ai pas lu.
Non, non, mais je suis en train d'écrire autre chose qui est vraiment très loin de moi.
C'est vrai.
Et j'ai commencé à l'écrire. Oui, j'ai commencé à l'écrire. Et j'ai, d'abord, ce livre-là, quand je l'ai écrit, le dernier, je l'ai écrit comme 9 ans après. 9 ans après aussi, le suicide de ma sœur. Et ça a changé beaucoup mon écriture. Voilà. Ma sœur adoptive s'est enlevée la vie quelques mois après la sortie du premier livre. Et puis, j'ai pensé beaucoup à elle en écrivant. Beaucoup, beaucoup à elle. Mmh. Et je me suis donné le droit de, je trouve qu'il y a une différence dans l'écriture entre le deuxième, c'est le quatrième pour moi, mais je parle de roman, c'est le deuxième. Et j'ai voulu abandonner quelque chose. Et c'est la première fois que j'écrivais de cette manière-là. Donc, le prochain livre que j'ai commencé, ma maison d'édition était très heureuse d'apprendre une nouvelle. J'ai dit, j'ai commencé à écrire autre chose. Est-ce que vous voulez? M'ont dit, oui, on te suit. Et voilà,
merveilleux.
Je
Véronique Béliveau, j'aurais voulu prendre plus de temps avec vous aussi. Écoutez, en 30 petites secondes, comment allez-vous, Véronique? Que faites-vous maintenant? Plus de musique du tout? Fini, ça? Ça fait longtemps.
Ben, en fait, c'est drôle. Je peux pas dire une chose que je suis en fin de semaine.
Ah.
Mais moi, je n'ai plus envie de faire ce métier de chanteuse.
Ouais.
Quoi qu'on m'appelle de temps en temps, puis je dis oui ou non. Mais ce que je fais surtout, c'est que je travaille avec José Lito dans les documentaires. En fait, j'étais productrice au contenu du dernier documentaire qu'on a fait pour Radio-Canada. Alors, moi, je fais les montages avec lui. Je suis vraiment plus derrière
impliqué,
la caméra.
Impliqué, oui, c'est ça. Ouais, écoutez, vous deux, c'est un régal de vous lire, c'est un régal de vous entendre, c'est un régal de partager ces moments-là, ces mots-là avec vous. Dieu que j'aimerais prendre une coupe de champagne un jour avec vous. On aurait tellement de choses à se raconter.
Absolument. Mais d'accord. Moi, j'ai déjà envie et vous me donnez vraiment envie de le faire. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, au moment où on enregistre, j'ai une pensée pour mes amis français à qui j'ai écrit ce matin, justement, et je leur ai envoyé du champagne à distance en ayant une grande pensée pour eux parce qu'ils entrent dans un tunnel difficile.
Merci
et au même
pour
moment,
ces bulles.
Mais c'est vrai, mais au moment où ils s'apprêtent à fermer la lumière pendant un certain temps, il y a encore des agressions, encore ce matin à Nice.
En plus, à Nice.
Bref, je trouve que donc le champagne, parfois, ça permet de se détendre en attendant que la noirceur passe.
Ils auraient bien besoin de votre boîte à caresses. Merci beaucoup, José Lito, Méchaud et Véronique Béliveau. Plaisir, plaisir, plaisir.
Absolument, merci à vous.
Restez avec nous, c'est l'émission des livres plein les oreilles qui se poursuit dans quelques minutes. Des livres plein les oreilles, la suite. Chez Vues et Voix, on est bien évidemment convaincus de l'utilité pédagogique et ludique du livre audio pour les jeunes enfants. Véronique Fontaine, elle aussi, elle en est convaincue, elle qui a fondé et qui est l'éditrice en chef de la destinée des éditions Fonfon, des éditions qui font peu en livre audio, mais qui Fonfon très bien. Alors j'ai eu envie de vous présenter leur travail.
J'ai souvent la tête dans les nuages. Je n'y peux rien, je suis comme ça. J'ai la tête en l'air et j'oublie tout. J'oublie quoi déjà? Je reviens d'un beau voyage, mais j'ai perdu tous mes bagages. Ma tête en l'air me joue des tours, et c'est comme ça tous les jours.
Et ça, c'est une des nouveautés qu'on nous présente aux éditions Fontaine. Bonjour Véronique Fontaine.
Bonjour.
Est-ce que je devrais vous dire Véronique Fontaine? Parce que Fontaine, est-ce que c'est Fonfon? Est-ce que c'est vous, ça?
En fait, Fonfon, c'est le surnom de mon père. Quand il était jeune, c'est en son honneur qu'on a nommé la maison comme ça. Ah! Oui, il y a toute une histoire de famille derrière la maison d'édition. Donc, et aujourd'hui, plusieurs m'appellent Fonfon, moi-même, imaginez-vous donc.
Bon, alors donc, j'étais vraiment pas loin. Donc, c'est, vous êtes un éditeur jeunesse, enfin, vous êtes à la tête d'une maison d'édition jeunesse avec ce nom rigolo. Et ce que vous cherchez, surtout, ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux que je suis allée trouver sur votre site et j'ai trouvé c'était sûrement les plus pertinents. Vous cherchez surtout à stimuler chez tous les enfants le goût de la lecture et vous cherchez à leur offrir de superbes albums à leur portée. C'est bien ça?
Oui, c'est exactement ça. C'est important de s'adresser aux enfants avec leurs intérêts directement. Tu sais, il y a tellement de beaux livres qui sont illustrés, mais qui, je trouve, ne s'adressent pas nécessairement toujours directement à l'enfant. Chez Fonfon, ce qu'on a envie, c'est que quand un enfant consulte un de nos livres, qu'il ait autant de plaisir que son parent à le faire. Si on veut offrir un beau moment, puis que, oui, que le texte et que les illustrations soient à la portée de l'enfant.
Ça veut dire que vous avez fait une étude de marché?
Même pas. J'ai beaucoup d'enfants dans mon entourage. J'ai une petite fille. J'ai un amour pour la littérature et la lecture. J'ai beaucoup animé d'histoires aussi. T'sais, à lire des livres aux enfants, on réalise très vite ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Puis je dis pas que je détiens la vérité, hein. Je peux me tromper aussi. Mais c'est vraiment dans cette optique-là qu'on travaille nous, nos textes, en se disant, OK, oui, si on pense que ça va faire rire les enfants. J'enseignais beaucoup, moi, la musique dans une autre vie. J'étais musicienne. Donc, je pense que c'est des atouts qui me servent aujourd'hui bizarrement dans le livre pour enfants.
Commençons par le livre audio, parce que vous savez que là, c'est l'émission des livres plein les oreilles et qu'évidemment, c'est notre mission à nous de parler du livre audio. Je disais en préambule, vous en faites peu, mais vous les faites bien. Vous en sortez quoi? Trois ou quatre par année, je crois, hein?
Oui, ben c'est assez nouveau, puis ça me touche que vous disiez ça, c'est qu'on en fait peu et bien, parce que c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. Nous, on avait fait un premier en 2018 avec Stéphanie Boulay, qui a écrit « Anatole qui ne séchait jamais chez nous », qui est illustré par Agathe Brébourret.
Oui.
Puis en rencontre de production, au début, quand on travaillait sur le livre, Stéphanie nous avait fait la lecture de son texte. J'avais eu des frissons tout le long, puis je me disais, on peut pas juste comme garder ça pour nous. Donc, j'avais eu comme une espèce d'envie folle de faire un livre audio, ce qu'on a fait. Et c'est Claude Pelgag qui avait signé la musique de ce livre-là. Donc, ça a été une espèce de rencontre parfaite entre créatrices, cette affaire-là. Fait que c'est le premier livre audio qu'on a fait. Puis ça, c'était en 2018, en novembre 2018. Mais tu sais, vous voyez, nous, c'est un nouveau marché pour nous, le livre audio. On ne s'y connaît pas bien. Les canaux de distribution sont pas clairs encore. Fait que c'était comme un coup de tête et une envie de le faire. C'est vraiment créative. Puis suite à ça, ben, tu sais, il y a de plus en plus de fonds qu'on peut aller chercher pour l'accessibilité. Tu sais, vous en savez quelque chose, vous y voir, évidemment.
Sûr.
Et là, ben moi, ça me permet, tu sais, d'aller chercher des sous pour en faire, parce que c'est quelque chose avec lequel je m'amuse beaucoup. Tu sais, j'ai un passé de musicienne, moi, qui me permet finalement de m'amuser encore plus en livre audio, parce que là, je combine mes deux passions, soit les livres pour enfants et la musique. Donc, ces fonds-là sont nouveaux. C'est des fonds qui viennent de chez Patrimoine Canada. Et donc, c'est ce qui me permet d'en faire plus que j'en faisais. Donc, on en a trois qu'on a fait cette année, mais on en a plein d'autres là, qui sont en train de se préparer, là, qui sortiront dans les prochains mois.
Alors, il y en a, parce que je trouve que vous avez une pêche du tonnerre quand je vous entends parler, une pêche dans, vous comprenez le sens, quoi, du peps, comme on dit.
Oui.
Et je suis tombée, entre autres, dans vos nouveautés sur un petit extrait de « À qui la frite ?» Et on dit ça aussi chez nous, avoir la frite. Alors, « À qui la frite ?»
À qui la frite ?
À nous la frite !
À qui la frite ?
À nous la frite !
À qui la frite ?
À nous la frite !
À qui la frite ?
À nous la frite !
Cela ne fait aucun doute, les vrais rois de la patate, ce sont eux. Tu as intérêt à les prendre au sérieux.
Oh, que c'est charmant, alors. Et vous travaillez avec le studio Boomerang, c'est ça?
Bulldog.
Oui. Pourquoi j'ai dit Boomerang? Ouais. Bulldog.
Ouais, ça se ressemble.
C'est parce
que
c'est
ça. Mais oui, en fait, c'est le studio avec qui j'ai travaillé sur ces livres-là, la nouvelle cuvée là, de petits livres audio qu'on a fait cet automne. Puis oui, c'est eux ont l'habitude de faire des livres audio, puis c'est vraiment un champ d'expertise qu'ils avaient envie de développer. Et puis, moi, je me suis tournée vers eux. Puis pour À qui la frite qu'on vient d'entendre, on a eu la chance d'avoir Dumas qui a accepté de faire la musique pour ce
Mais
livre-là.
Oui.
Ça, c'était une envie qu'on avait. Ben, Chloé Varin, qui est l'autrice du livre, et moi, on se disait, à qui la frite, il y a une espèce d'univers un peu rock. Là. On est dans un stationnement avec des goélands, puis il y a des tatouages. Puis là, c'est un drôle d'univers, en fait. Et là, on disait, la musique de Dumas là-dessus, puis je sais que c'était de la musique de film par moment. Alors là, c'est Dumas et Martin Roy qui s'y sont penchés sur ce livre-là. Puis moi, j'avais donné le mandat, allez-y dans le rock, là. On a le droit d'y aller. Puis on a un petit thème, on est des fois dans le stationnement d'une ville, mais parfois aussi à la plage. Fait qu'on a joué sur un genre de thème et variation de musique qu'on retrouve de façon très rock, mais aussi avec une instrumentation plus légère là, pour quand on est à la plage.
Mais dites donc, je vais vous poser une question indiscrète. Je peux?
Allez.
Dites donc, Dumas, là, ça doit pas coûter juste quelque chose, cette affaire-là. Ça va?
Dumas, tous les musiciens avec qui je travaille, ça coûte des sous, effectivement. Puis ça, c'est vraiment merci à Patrimoine Canada qui me permet de donner des cachets aux créateurs. Vous voyez, parce que...
C'est génial! C'est Patrimoine Canada qui vous soutient. Fantastique!
Complètement, oui. Bien, pas complètement. Ils payent une portion, ils ne payent pas tous les frais, mais assez pour que je puisse prendre des risques, je vous dirais. Parce que quand on travaille sur un livre comme ça, bien oui, moi, il y a des cachets à chaque musicien avec qui j'ai travaillé. Puis c'est important pour moi, étant une ancienne musicienne, de respecter vraiment les métiers de chacun, puis que tout le monde trouve son compte dans tout ça. Puis à la fin, bien, il y a un risque, tu sais, chez Fonfon, parce qu'on ne sait pas si on va en vendre. C'est pas clair encore pour nous la mise en marché de ces œuvres-là. Sauf que comme Patrimoine canadien en paye une bonne partie, bien moi, ça me permet d'amortir une partie
bien
de dépenses,
sûr.
Diminuer mon risque,
bon,
puis de m'amuser, puis d'aller au bout des choses.
T'sais. Bon, je suis contente parce que j'avais peur que vous me disiez que tout le monde travaillait bénévolement là-dessus, ce serait quand même dommage.
Non.
Parce que vraiment, le produit est vraiment très, très bon. Fonfon, c'est aussi interactif. Qu'est-ce que vous appelez Fonfon interactif?
C'est parce que nous, on a fait une grosse production, ça fait quelques années déjà, en 2016, on a pris trois de nos albums illustrés qu'on a transformés en applications interactives. Donc, c'était vraiment pour tablettes sur iOS, là, des tablettes Apple, où finalement, on utilisait l'histoire qu'on connaît, mais on ajoutait des interactions, c'est des trucs qui étaient cliquables, qu'on pouvait déplacer, de la musique, de la narration, qui était surlignée comme en fonction karaoké. Donc, il y avait plusieurs fonctionnalités qui étaient ajoutées. On a encore ces trois applications-là qui sont disponibles sur le App Store. Donc, j'ai Mew et Gertrude, 1-0 pour Charlot et La Reine et que ça saute. Et puis, ces trois applications-là, il y a une portion de création d'histoire. On offre à l'enfant l'univers de l'histoire. Il peut recomposer son histoire, enregistrer sa voix, mettre son propre texte.
Oh.
Donc, c'est vraiment... Fait que l'idée, c'est de l'interaction entre l'histoire à la base, mais l'enfant aussi. Ouais.
Ben, bravo. Véronique, on va écouter encore un dernier extrait. Celui-ci, mes auditeurs, c'est pas la première fois qu'ils l'entendent. Parce que moi, c'était au hasard de mes recherches. Hein, parce que vu que cette émission des livres pleins les oreilles... fait la part belle, évidemment, aux livres qui sont produits ici, mais vraiment pas que ça. On s'intéresse à tout ce qui se fait dans la francophonie et qui peut s'écouter en termes de livres. Et donc, au hasard de mes recherches, pouf, je tombe sur vous. Et j'étais tombée sur cet adorable petit bout d'histoire que j'avais diffusé. C'est l'histoire de Pète et Repète.
Il était une fois des jumeaux. Dès leur naissance, on leur remarque des particularités plutôt surprenantes. L'un d'eux a toujours des gaz, tandis que l'autre est dur d'oreille. Leur maman, fine observatrice, les appelle donc Pète et Répète. Pète et Répète ont une enfance heureuse. Leur maman leur fait un gros câlin tous les matins. Leur papa leur raconte une histoire tous les soirs. Et c'est toujours accompagné de leur fidèle chien, Rapporte, qu'ils vont s'acheter des bonbons au magasin. Lorsqu'ils commencent l'école, ça se gâte un peu. Ils sont d'abord la cible de moqueries. Mais grâce à un petit plan qu'ils mettent au point, ils n'ont bien vite pas leur pareil pour faire rire leurs amis. Un pète par-ci, un répète par-là. Il n'y a que dans le bureau du directeur que ce n'est pas la joie.
Et ça me fait rire à chaque fois. J'ai dit répète, mais non, c'est bien répète, évidemment. C'est tellement délicieux et c'est très soigné au niveau des inserts sonores comme ça.
Oui.
En tout cas, c'est vraiment sympa. Alors donc, les productions Fonfon Audio, les éditions Fonfon Interactif, mais vous dites que pour finir, il y a vraiment plusieurs collections que vous offrez. Parlons-en quand même si ce n'est pas forcément de l'audio.
Oui, ben en fait, notre audio va être dérivé de nos livres papier qui font partie de diverses collections. Donc, vous avez entendu « À qui la frite est pété répète » et en introduction « Ma tête en l'air » qui font tous partie de la collection « Histoire de rire » où on s'amuse avec les enfants, où on est dans l'imaginaire. Mais on a aussi des collections de livres à thème où on aborde des sujets qui peuvent être peut-être plus délicats ou sensibles, comme l'anxiété. Tout récemment, on vient de lancer « Ma maison de tête » qui est sur le TDAH. Donc là, c'est encore par le biais d'histoire. Hein. On est toujours dans « Raconter une histoire », mais on va aborder des sujets comme ceux-là. Et puis, il y aura certains de ces livres-là qui seront traités aussi en audio prochainement. Là, dans les prochains mois, il y aura des belles sorties donc à surveiller. Et sinon, on a une petite collection pour les premiers lecteurs, donc des livres de très peu de pages, 16 pages, avec des très courtes histoires, une ou deux phrases par page, pour que les lecteurs qui commencent à lire d'eux-mêmes puissent avoir accès à de la belle littérature de créateurs d'ici.
Alors, c'est à découvrir les éditions Fonfon. Si vous faites simplement édition Fonfon hein, sur votre moteur de recherche, vous allez tomber tout de suite sur le travail de Véronique Fontaine et ses nombreux collaborateurs, bien sûr, que je ne peux pas nommer tous ici. Mais merci beaucoup, Véronique, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Ça me tenait à cœur qu'on fasse la part belle aux éditions Fonfon ici. Puis vous savez qu'à Vues et Voix, vous serez toujours la bienvenue.
Absolument. Ben, c'est un grand plaisir pour moi. Puis j'apprécie ce temps-là que vous nous accordez puisque vous portez intérêt à nos livres audio. J'en suis super fière puis j'aime ça en parler. Ça me fait plaisir.
Un grand plaisir à nous aussi.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Oui, je suis d'accord avec vous, ça gratte un peu, ça n'a pas été enregistré en studio, mais vous allez tout comprendre. Le saviez-vous ? Proust adorait la musique classique. Bon, les compositeurs français, beaucoup, Fauré et Franck, notamment Saint-Saëns, mais également la fougue allemande d'un compositeur comme Wagner. Et dans son œuvre littéraire, un jour, il s'est inspiré de compositions de ces musiciens-là pour créer et intégrer une sonate pour violon dans son œuvre. Vous savez, on a toujours dit qu'il suffit de voir une madeleine et d'y goûter pour aussitôt revenir à l'œuvre de Proust, à la recherche du temps perdu. Si le goût de la madeleine devient en quelque sorte le lien douloureux de cet amour passé avec Odette de Crécy, le souvenir douloureux, eh bien on oublie qu'il y a aussi une sonate, celle dont on vient d'entendre un extrait, une sonate qui relie également Swann et Odette. Dans le salon que l'on disait Verdurin, le salon Verdurin, eh bien cette phrase musicale est même devenue l'air national de leur amour. Et cela a donné une scène admirable dans le film de Raoul Ruiz, consacré à Le Temps Retrouvé. Le Temps Retrouvé, dont j'ai extrait ces quelques mesures que vous venez d'entendre, et ces quelques autres qui vont accompagner la lecture de Daniel Mesguich, lisant un extrait de Le Temps Retrouvé, extrait à la recherche du temps perdu. Ça fait partie, cette lecture de Mesguich, de l'intégrale de la recherche du temps perdu, parue dans un coffret chez Frémaux et Associés, qui vient de recevoir la plume d'or remise comme récompense suprême au meilleur livre audio 2020. Ça, c'est un grand prix qui est organisé par la plume de Pan, à tous les ans, et qui s'est déroulé cette année au Centre national du livre en octobre. Alors, voici un extrait de Le Temps Retrouvé de Marcel Proust, lu par Daniel Mesguich.
« ma mémoire, la mémoire involontaire elle-même, avait perdu l'amour d'Albertine. Mais il semble qu'il y ait une mémoire involontaire des membres, pas les stériles imitations de l'autre, qui vivent plus longtemps, comme certains animaux ou végétaux inintelligents vivent plus longtemps que l'homme. Les jambes, les bras sont pleins de souvenirs engourdis. Un soir que j'avais quitté Gilberte assez tôt, je m'éveillai au milieu de la nuit dans la chambre de Tansonville et encore à demi endormi, j'appelai Albertine. Ce n'était pas que j'eusse pensé à elle, ni rêvé d'elle, ni que je la prise pour Gilberte. C'est qu'une réminiscence éclose en mon bras m'avait fait chercher derrière mon dos la sonnette, comme dans ma chambre de Paris. Et ne la trouvant pas, j'avais appelé Albertine, croyant que mon amie défunte était couchée auprès de moi, comme elle faisait souvent le soir et que nous nous endormions ensemble, comptant au réveil sur le temps qu'il faudrait à Françoise avant d'arriver, pour qu'Albertine pût, sans imprudence, tirer la sonnette que je ne trouvais pas.
C'est dommage que ça gratte comme ça, mais c'est un tellement beau moment que cette sonate de Vinteuil, signée Proust, une espèce de sonate virtuelle avant l'heure, qu'il a composée pour la recherche du temps perdu. Ça donc, c'était aussi pour évoquer la plume d'or remise par la plume de Pan à tous les ans, mais il y a d'autres prix qui sont remis à cette occasion-là, notamment en contemporain. Je voudrais vous parler de Manifesto de Léonore de Recondo et Jacques Chausse-Pied qui produit ce livre audio par Audiolib et donc qui a reçu le prix pour l'œuvre contemporaine. Nous sommes avec deux femmes, une fille et sa mère, dans une chambre d'hôpital où elles veillent sur le père pour l'une et l'époux pour l'autre. L'homme, c'est Félix, artiste, dessinateur, sculpteur, et lui... Il se souvient des épreuves, il se souvient de l'exil dans les Landes, il se souvient surtout de ses rencontres avec Ernest Hemingway, de l'ultime discussion avec l'écrivain, alors qu'il lui montre un violon qu'il a fabriqué de ses mains pour sa fille, Léonore, qui le veille aujourd'hui. Et hasard de la programmation, pour des livres pleins les oreilles, il sera une nouvelle fois question d'une sonate pour violon, et je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Cette fois-ci, c'est celle de Corelli, et c'est celle que dans les derniers instants, pendant la dernière nuit de veille autour du père mourant, ils écouteront ensemble dans cette chambre d'hôpital. Je précise que l'extrait que j'ai écouté du livre, la musique n'est pas là. Hein. C'est moi qui l'ai rajouté parce que je trouvais dommage qu'on évoque dans cette œuvre-là cette sonate de Corelli pour ne pas l'ajouter. Mais si vous allez chercher le bouquin, vous ne l'entendrez pas, cette sonate de Corelli. Mais si vous écoutez des livres plein les oreilles, eh bien vous allez découvrir, c'est de toute beauté.
Manifesto de Léonore de Récondo, lu par l'autrice
et Jacques Chausspied.
Prologue. J'ai commencé l'écriture de ce texte depuis plusieurs mois déjà, quand je fais un rêve. Je suis dans une pièce entourée d'une multitude de petits bouts de papier. Cécile, ma mère, est assise sur un canapé, elle m'observe. Je dois écrire la quatrième de couverture de ce livre, je suis angoissée. J'essaie de mettre en ordre les petits bouts de papier, ce qu'il s'est passé dans les années 1980, puis 1990, et cette nuit-là. La nuit du 24 au 25 mars 2015, où Cécile et moi avons accompagné Félix, mon père, vers la mort. Je suis perdue, Cécile est calme, elle me dit « C'est simple, Léonore. Quelle est la phrase qui viendrait tout définir ?» Je la regarde, je ne sais pas. Sans lui répondre, je continue de fouiller frénétiquement les papiers. Elle poursuit. « La phrase importante de ce manifeste, de ton manifesto. » Je m'arrête à nouveau. Je réfléchis et réponds. « Pour mourir libre, il faut vivre libre. » Et je me réveille en sursaut avec ce mot « manifesto ». Cécile, en plus d'être l'un des personnages principaux de ce texte, m'offrait un titre et la possibilité de poursuivre l'écriture de cette ultime conversation entre Félix et Ernest Hemingway.
Et enfin, toujours dans le Grand Prix, autour du Grand Prix du Livre Audio 2020, dans la catégorie documents, le prix a été remis à Idis de Robert Badinter, lu par Féodor Atkins. Robert Badinter écrit lui-même ces quelques mots pour nous présenter ce livre. « J'ai écrit ce livre en hommage à ma grand-mère maternelle, Idis. Il ne prétend être ni une biographie, ni une étude de la condition des immigrés juifs de l'Empire russe venus à Paris avant 1914. Il est simplement le récit d'une destinée singulière à laquelle j'ai souvent rêvé. Puisse-t-il être aussi, au-delà du temps écoulé, un témoignage d'amour de son petit-fils ? Extrait de Idis.
Chapitre 1er. Le Shtetl. Tu dois savoir, me dit la voix secrète, qu'après le départ de son mari à l'armée du tsar, Idis est restée seule avec ses deux fils. Elle a dû vivre chez ses beaux-parents. Une jeune femme mariée ne pouvait demeurer seule dans un shtetl. Qu'auraient murmuré les voisins, toujours médisants. Mais la belle famille était pauvre, et trois bouches de plus à nourrir était une lourde charge. ce n'est pas qu'ils fussent égoïstes ou avares, mais pauvres ils l'étaient, comme Job dans la Bible. Idis aidait sa belle-mère et faisait plus que sa part du travail à la maison. Elle avait appris à broder et ornait nappes et serviettes pour les richards du bourg, des goyes qui habitaient de l'autre côté de la petite rivière près de l'église. Les jours de marché, Idis partait à l'aube et déployait ses broderies sur une table pliante. Son petit commerce ne marchait pas fort, peut-être parce qu'elle ne connaissait pas les nouveautés à la mode. Souvent, Idis revenait à la maison la tête basse, sans rien avoir vendu, avec Avroum, l'aîné de ses fils qui avait 4 ans, et ne quittait pas la main de sa mère. Un jour d'hiver où la neige recouvrait le sol et où le vent glacial s'engouffrait sur la place du marché, un colporteur, la regardant grelotter avec Avroum, lui dit « Viens, Idis, je t'offre un thé à l'auberge, ça vous réchauffera un peu. » Idis refusa d'abord, une femme seule assise à l'auberge avec un homme, qu'allait-on penser? Mais Avroum, à ses côtés, répétait déjà « Dis oui, maman, j'ai si froid. »
Ah, la voix de Féodor Atkin, j'étais bercée, moi là, j'attendais la suite. Et vous, ça sera ça l'émission des livres plein les oreilles, à vous donner envie de découvrir des livres autrement lus par d'autres. Et vous laisser comme moi à l'instant, mais vous laisser bercer par ces sonorités et par ces mots. Voilà, l'émission des livres plein les oreilles s'achève pour cette semaine. Je voudrais remercier José Lito Michaud, sa merveilleuse compagne et lectrice Véronique Béliveau. Et je voudrais aussi remercier une autre Véronique, Véronique Fontaine, des éditions Fonfon, que je vous encourage à découvrir. Merci Jean-Sébastien Laliberté de m'avoir accompagné encore aujourd'hui. Je suis Clotilde Seille. Merci aux auditeurs de CKVL, de Canal M, et merci à vous qui nous écoutez en balado. À la semaine prochaine et vive les livres audio. Salut.